Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn. Chapitre 7. Aussi longtemps que l'herbe poussera et que couleront les rivières. Deuxième partie. Devenu gouverneur du territoire de Floride, Jackson était particulièrement bien placé pour promouvoir les affaires de ses amis et parents. Il conseilla à l'un de ses neveux de s'accrocher à sa propriété de Pensacola et à un ami, chirurgien militaire, d'acheter autant d'esclaves que possible car les prix allaient bientôt monter. Après avoir abandonné ses fonctions militaires, Jackson continua de conseiller les officiers sur le moyen de parer à la désertion croissante. Les blancs pauvres, même les plus décidés à donner leur vie pour la cause, s'étant assez rapidement rendu compte que les bénéfices en revenaient aux riches. Il suggéra le fouet pour les deux premières tentatives de désertion et l'exécution pure et simple pour la troisième. Les principaux ouvrages portant sur la période jacksonienne, écrits par de respectables historiens, The Age of Jackson d'Arthur Schlesinger et The Jacksonian Persuasion de Marvin Mayer, ne traitent pas de la politique indienne de Jackson. On y trouve en revanche nombre de développements sur les tarifs douaniers, la banque, la rhétorique politique et la vie des partis. Si on fait un rapide tour d'horizon des manuels scolaires des collèges et du primaire, on découvre un Jackson héros de la frontière, soldat, démocrate, homme du peuple, rien sur le propriétaire esclavagiste, le spéculateur foncier, l'exécuteur de soldats séditieux ou l'exterminateur d'indiens. Il ne s'agit pas de jugement rétrospectif. Les faits parlent d'eux-mêmes. Dès que Jackson devint président en 1829, à la suite de Jefferson, Madison, Monroe et John Quincy Adams, le décret sur le déplacement des Indiens fut soumis au Congrès. Il était alors considéré comme une mesure essentielle de l'administration Jackson et comme la question la plus importante jamais présentée devant le Congrès, en dehors des guerres et des traités de paix. Si les deux partis politiques en présence, les démocrates et les Whigs, divergeaient sur les tarifs douaniers et sur les banques, ils s'accordaient en revanche sur les questions cruciales des blancs pauvres, des esclaves et des Indiens. Même si Jackson faisait figure de héros pour certains travailleurs blancs en raison de son opposition à la banque des riches. Sous la présidence de Jackson, puis sous celle de l'homme qu'il choisit pour lui succéder, Martin Van Buren, 70 000 Indiens de l'est du Mississippi furent contraints de se déplacer vers l'ouest. Dans le nord du pays, ils étaient moins nombreux et la Confédération iroquoise de l'État de New York n'eut pas à s'expatrier. Les Fox et les Sax de l'Illinois furent en revanche déplacés après la guerre de Black Hawk. Quand le chef Black Hawk fut vaincu et capturé en 1832, il fit un discours de reddition. J'ai combattu bravement, mais vos fusils étaient bien dirigés. Les balles volaient à travers les airs comme des oiseaux et sifflaient à nos oreilles comme le vent d'hiver à travers les arbres. Mes guerriers sont tombés autour de moi. Un soleil noir s'est levé sur nous au matin, puis a plongé le soir venu derrière un nuage sombre, ressemblant à une boule de feu. C'est le dernier soleil qui brillera sur Black Hawk. Il est maintenant prisonnier des hommes blancs. Il n'a rien fait dont un Indien puisse avoir honte. Il s'est battu pour ses semblables, les squaws et les papouses, contre les hommes blancs qui venaient année après année pour les tromper et s'emparer de leurs terres. Vous savez les raisons pour lesquelles nous avons fait la guerre. Tous les hommes blancs les savent et ils devraient en avoir honte. Les Indiens ne sont pas malhonnêtes. Les hommes blancs disent des mensonges sur l'Indien et le considèrent avec mépris. Mais l'Indien ne ment pas et l'Indien ne vole pas. Un Indien qui serait aussi mauvais que les hommes blancs ne pourrait pas vivre parmi nous. Il serait mis à mort et dévoré par les loups. Les hommes blancs sont de mauvais maîtres d'école. Ils apportent des livres, menteurs et agissent mal. Il sourit au pauvre Indien dans le seul but de le tromper. Il lui secoue les mains pour lui donner confiance, pour le faire boire, pour le tromper et soudoyer nos femmes. Nous leur avons dit de nous laisser et de se tenir éloignés. Mais ils ont continué et nous ont harcelés. Ils se sont installés parmi nous, comme le serpent. Let's go surfing now, everybody's learning how, come on a safari with me. Nous ont empoisonnés par leur simple contact. Nous n'étions plus en sécurité. Nous vivions dans la crainte. Nous étions en train de devenir comme eux. Hypocrites, menteurs, adultères, paresseux. Toujours à bavarder sans jamais travailler. Les hommes blancs ne scalpent pas, mais ils font pire encore. Ils empoisonnent les cœurs. Adieu ma nation. Adieu à Black Hawk. L'amertume de Black Hawk résulte en partie de la manière dont il avait été capturé. Sans soutien dans sa lutte contre les Blancs, voyant ses compagnons mourir de faim et être chassés puis poursuivis de l'autre côté du Mississippi, Black Hawk brandit le drapeau blanc. Les soldats firent feu, tuant femmes, enfants et guerriers. Black Hawk parvint à s'enfuir, mais fut finalement capturé par des Sioux à la solde de l'armée américaine. Lewis Cass, secrétaire à la guerre, gouverneur des territoires du Michigan, ambassadeur en France et candidat à la présidence, aussi pompeux que prétentieux, se prétendait expert en matière d'Indiens. Il fit pourtant systématiquement preuve, selon Richard Drennan, « Violence in American Experience, Winning the West », d'une fort remarquable ignorance de la vie indienne. En tant que gouverneur des territoires du Michigan, Cass s'empara par traité de centaines de milliers d'hectares appartenant aux Indiens. Lors de la négociation d'un traité avec les Shawnees et les Cherokees, Cass promit que, si les Indiens acceptaient au moins de s'installer sur un nouveau territoire de l'autre côté du Mississippi, les États-Unis ne leur prendraient jamais cette nouvelle terre. « Je le promets, continuait-il, au nom de votre père, le président. Ce pays est confié aux Rouges afin qu'ils en jouissent à jamais, et après eux, les enfants de leurs enfants. » Le propriétaire de la North American Review lui dit que son projet ne faisait que retarder le destin fatal des Indiens. Dans 50 ans, leurs conditions de vie de l'autre côté du Mississippi seront exactement les mêmes qu'aujourd'hui de ce côté-ci. Leur extinction est inévitable. Comme le fait remarquer Drennan, Cass ne discuta pas de ce sujet et fit publier son article tel quel. Tout dans l'héritage culturel des Indiens, militaient contre l'abandon des terres. Un conseil des Creeks, à qui l'on offrait de l'argent en échange de leurs terres, se conclut ainsi. « Nous n'accepterons pas d'argent pour une terre au sein de laquelle nos pères et nos amis sont enterrés. » Un vieux chef, Choctaw, déclarait pour sa part, des années auparavant, en réponse à une proposition de déplacement faite par le président Monroe. « Je suis désolé de ne pouvoir accepter la demande de mon père. Nous désirons demeurer ici, où nous avons grandi comme l'herbe, des bois, et ne souhaitons pas être transplantés sur un autre sol. » Un chef séminole avait également déclaré à John Quincy Adams, « C'est ici que nos cordons ombilicaux ont été tranchés et que leur sang s'est répandu sur la terre, nous rendant ce pays d'autant plus cher. » Dès que Jackson fut élu président, la Géorgie, l'Alabama et le Mississippi se dotèrent de lois qui étendaient les prérogatives des États sur les Indiens habitant leur territoire. Ces lois ne reconnaissaient plus la tribu comme unité légale, interdisaient les conseils de tribus, supprimaient les pouvoirs des chefs et imposaient aux Indiens les obligations militaires et les taxes locales, tout en leur refusant le droit de vote, celui de s'habiller à l'européenne et de témoigner devant une cour de justice. Les terres indiennes étaient divisées en parcelles, afin d'être distribué par lot. Enfin, les Blancs étaient encouragés à s'installer sur les territoires indiens. Pourtant, c'était au Congrès, et non aux États, que les lois et les traités fédéraux donnaient autorité sur les tribus. La loi sur le commerce et les relations avec les Indiens, votée par le Congrès en 1802, spécifiait que toute cession de territoire devait se faire par l'intermédiaire de traités signés avec les tribus, et que la loi fédérale s'appliquait sur tout le territoire indien. Mais Jackson passa outre et favorisa l'activité des États. Nous avons là une parfaite illustration de l'usage habituel du système fédéral américain. Selon le cas, la faute peut être mise sur le dos des États, ou sur cette entité plus floue encore, cette mystérieuse loi devant laquelle tout homme, aussi compréhensif soit-il à l'égard des Indiens, ne pouvait que s'incliner. Comme le secrétaire d'État à la guerre, John Eaton, l'expliquait si bien aux Creeks de l'Alabama. Alabama signifie « ici nous pouvons rester ». Ce n'est pas votre père qui fait cela, mais les lois de ce pays, qu'il doit, comme tout en chacun, respecter. La stratégie était désormais parfaitement au point. Les Indiens ne seraient pas contraints d'aller vers l'Ouest, mais s'ils choisissaient de rester, ils devraient se soumettre aux lois des États, qui niaient leurs droits, tant tribaux qu'individuels, et faisaient d'eux les victimes d'un perpétuel acharnement et de l'invasion permanente des colons blancs convoitant leurs terres. S'ils partaient, en revanche, le gouvernement fédéral leur apporterait un soutien financier et leur promettait des terres sur l'autre rive du Mississippi. Jackson fit lire par l'un des officiers chargés de négocier avec les Choctaws et les Cherokees la déclaration suivante. « Dites à mes enfants rouges, les Choctaws, ainsi qu'à mes autres enfants, les Chickasaws, de bien comprendre ceci. Mes enfants blancs du Mississippi ont étendu leurs lois sur leur pays. Dites-leur que, là où ils sont, leur père ne peut pas les protéger des lois de l'État du Mississippi. Le gouvernement fédéral sera obligé de soutenir les États dans l'exercice de leurs prérogatives. Dites aux chefs et aux guerriers que je suis leur ami, que je souhaite me conduire en ami, mais qu'ils doivent, en quittant les États du Mississippi et de l'Alabama, et en s'installant sur les terres que je leur offre, me permettre de les aider. Là, une fois qu'ils sont sortis des frontières des États existants, et en possession de leurs propres terres, dont ils pourront jouir aussi longtemps que l'herbe poussera et que couleront les rivières, je les protège, les protégerai et resterai leur ami et leur père. » L'expression « aussi longtemps que l'herbe poussera et que couleront les rivières » devait résonner amèrement dans les mémoires de nombreuses générations d'Indiens. Un GI d'origine indienne, vétéran du Vietnam, témoignant un jour non seulement des horreurs de la guerre, mais aussi des mauvais traitements qu'il y avait endurés en tant qu'Indien, rappela cette promesse avant d'éclater en sanglots. En 1829, lorsque Jackson devint président, on venait de découvrir de l'or sur le territoire Cherokee de Géorgie. Des milliers de blancs envahirent et ravagèrent les propriétés indiennes, alléguant certains droits. Jackson ordonna aux troupes fédérales de les expulser, mais dans le même temps, interdit aux Indiens comme aux blancs de prospecter l'or. Ensuite, il retira les troupes. Les Blancs revinrent et Jackson déclara qu'il ne pouvait contrecarrer les autorités de l'État de Géorgie. Les envahisseurs blancs se saisirent des terres et des troupeaux, forcèrent les Indiens à signer des baux, rouèrent de coups ceux qui protestaient, vendirent de l'alcool pour affaiblir les résistances et tuèrent le gibier dont ils avaient besoin pour se nourrir. Faire porter toute la responsabilité sur la foule des Blancs serait cependant passé sous silence, selon Ruggin, le rôle essentiel des intérêts financiers des planteurs et des décisions politiques prises par le gouvernement. La faim, le whisky et les agressions militaires enclenchèrent un processus de désintégration des tribus. La violence entre Indiens s'accrut dramatiquement. Les traités mensongers ou signés sous la pression fragmentèrent les terres collectives des Creeks, Choctaws et autres Chickasaws en autant de petites propriétés individuelles, à la merci des entrepreneurs, des spéculateurs fonciers et des politiciens. Les Chickasaws vendirent individuellement leurs terres à un très bon prix et s'en allèrent vers l'ouest sans trop subir de violence. Les Creeks et les Choctaws, en revanche, s'installèrent sur leurs parcelles individuelles où un grand nombre d'entre eux furent escroqués par les spéculateurs fonciers. Au dire même du président d'une banque géorgienne, par ailleurs actionnaire d'une compagnie foncière, le vol était à l'ordre du jour. Les Indiens en appelèrent à Washington. Levi Strauss leur fit répondre que les citoyens américains étaient disposés à acheter et les Indiens à vendre. Les dispositions prises en conséquence pour le paiement de ces ventes semblent échapper à l'autorité du gouvernement. La conduite imprévoyante de l'Indien ne peut pas être sujette à réglementation. S'il jette cet argent par les fenêtres, ce qu'ils font bien trop souvent, c'est profondément regrettable, certes, mais il s'agit d'un droit que leur confère le traité. Les Creeks, dessaisis de leurs terres, à court d'argent et de nourriture, refusèrent de partir vers l'ouest. Affamés, certains lancèrent des raids contre les fermes des Blancs, tandis que la milice géorgienne et les colons blancs attaquaient les campements indiens. C'est ainsi que débuta la seconde guerre contre les Creeks. Un journal d'Alabama qui soutenait la cause indienne affirma que « la guerre contre les Creeks est une vaste fumisterie. Il s'agit au fond d'un plan diabolique, conçu par des hommes cupides pour empêcher une race ignorante de jouir de ses justes droits et la priver des maigres revenus qu'on lui a concédés. » De 1814 à 1824, par une série de traités signés avec les Indiens du Sud, les Blancs s'approprièrent les trois quarts de l'Alabama et de la Floride, un tiers du Tennessee, un cinquième de la Géorgie et du Mississippi, ainsi que certaines régions du Kentucky et de la Caroline du Nord. Jackson joua un rôle majeur dans la ratification de ces traités. Selon Hugging, ses parents et amis se virent confier des postes du premier plan, officiers du Bureau des Affaires indiennes, négociants, responsable de l'application des traités, contrôleur et spéculateur foncier. Il encourageait les Blancs à s'installer sur les territoires des Indiens, puis annonçait à ces derniers que le gouvernement ne pouvait pas expulser les nouveaux venus. Il valait mieux dès lors renoncer à ces terrains plutôt que risquer d'être massacré. Jackson pratiquait la corruption à grande échelle. Ces traités et ces saisies de terres jetèrent les bases de l'empire du coton, les plantations esclavagistes. Ce travail de Jackson permit d'étendre les installations de populations blanches jusqu'à la frontière avec la Floride espagnole. Là, elles se heurtèrent aux communautés d'Indiens séminoles que des réfugiés bâtons rouges avaient rejoints. Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours.
Howard Zinn.